En ce 26 mars, c'est le 170e anniversaire du décès de Beethoven, un catholique qui a eu beaucoup de difficultés, étant donné qu'il est devenu sourd, assez jeune, beaucoup plus jeune qu'on le croit souvent, lui qui était un très grand compositeur. Et vous verrez qu'au creux de ses souffrances, il a eu beaucoup de difficultés à maintenir une foi éclairée, mais malgré tout, il a composé des œuvres, quelques œuvres religieuses remarquables, mais son orgueil l'a emporté, et c'est pour ça que je crois devoir étudier sa vie aujourd'hui. C'est très intéressant pour nous qui sommes tous des pécheurs, et nous pourrons besoin prier pour le repos de son âme, le repos de l'âme de tous ceux qui nous entourent et qui n'ont peut-être pas la chance de croire comme nous voudrions qu'ils croient. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Ludwig van Beethoven est né le 16 décembre 1770 à Bonn et il est mort à Vienne, en Autriche, le 26 mars 1827. Avec Jean-Sébastien Bach, dont je vous ai parlé il y a quelque temps, Ludwig van Beethoven fut, on peut dire, celui des maîtres de la musique dont les œuvres offrent le plus de variété, de puissance et de profondeur aussi. Sa famille avait déjà produit plusieurs musiciens, même des artistes peintres, des sculpteurs aussi. Ils étaient d'origine flamande, des environs de Louvain. C'est son grand-père, Ludwig, qui a été appelé à diriger la chapelle du prince-évêque, où il y avait des princes-évêques dans ce temps-là. Clément Auguste, qui était électeur de Cologne, et qui a fixé les Beethoven à Bonn, où se trouvait d'ailleurs la résidence princière. Bonn, on en a beaucoup entendu parler au cours des dizaines d'années récentes. C'était en Rhénanie, c'était la capitale, n'est-ce pas, de l'Allemagne de l'Ouest, ce qu'on appelle la République fédérale d'Allemagne, de 1949, au lendemain de la guerre, jusqu'en 1990, quand le mur de Berlin tombait. Et Bonn, à l'époque, bien, c'était une principauté catholique. Et son père, Johann, a fait sa carrière comme ténor de la même chapelle de ce prince-évêque. La chapelle était très très reconnue ou comme qualité de musique qu'on y jouait. Avec ses collègues de la petite cour, son père Johann van Beethoven puis sa famille avaient plus particulièrement comme amis deux franciscains, le père Hansmann et le frère Willibald Koch, qui furent tous deux les premiers maîtres d'orgue de notre jeune Ludwig van Beethoven, tandis que son père lui enseignait les éléments du solfège puis du clavecin. Et c'est sur l'orgue de l'église des franciscains que notre futur maître a fait principalement son apprentissage d'organiste. Et tout enfant, il était déjà connu des paroisses de la campagne environnante pour sa virtuosité vraiment précoce, hein, qui l'ont fait choisir. Ça l'a fait choisir ça à 12 ans comme suppléant de l'organiste de la cour avec qui il étudiait la composition. C'est le moment d'ailleurs d'où datent ses premières sonatines. Et on verra qu'au cours de sa vie, il va composer un oratorio, le Christ au Mont des Oliviers, en 1802. 6 cantiques spirituels sur des paroles de Gellert, publiées en 1802 aussi. Et puis, c'était maintes fois réimprimé, puis une messe en ut dans le style de Haydn, et finalement, sa fameuse messe en ré et le chant final de sa 9e symphonie, l'hymne à la joie, qui est pas un hymne vraiment chrétien. Sa mère était la fille d'un inspecteur des cuisines du prince-évêque. Elle était veuve en premier mariage d'un valet de chambre. Dans sa jeunesse, elle a été femme de chambre de leurs altesses. Et puis déjà, on voit se dessiner un premier contraste entre la simplicité de ses origines puis les prétentions de Ludwig van Beethoven. Et c'est ce qui lui a joué un mauvais tour. Son père s'adonnait, ténor, s'adonnait à la boisson, puis c'est en titubant parfois dans les rues de Bonne qu'il réussit à retrouver la pauvre maison où ils habitaient. Le ménage a peu d'argent. La mère est toujours tendue, elle est soucieuse. Une de ses amies affirme que jamais la mère de Beethoven n'a ri. On ne l'a jamais vue rire. Elle était très malheureuse. C'était donc un monde triste, coupé de cris, puis de rage et de colère, qui a accueilli notre pauvre petit Ludwig van Beethoven dès sa venue au monde. Et à 13 ans, l'incapacité de son père, la maladie de sa mère l'ont contraint à assumer la charge de toute la maison. C'est à lui, déjà à 13 ans, qu'on remet une partie de l'argent que l'on donne à son père afin de subvenir aux besoins de ses deux frères. Et les gains des leçons qu'il donne sont parfois les seuls revenus de la famille. C'est à l'occasion de ces leçons qu'il pénètre très jeune dans l'intimité plutôt douce, plutôt raffinée, d'une aristocratie dont le luxe contraste très durement avec la pauvre maison où il est venu au monde. Et malgré lui, il souffre de cette opposition entre le bonheur des grands et la misère des humbles. Et ça l'a affecté tout le long de sa vie, ça. Aucun doute, cette misère résulte, dans une large mesure, de l'indignité de son père. Mais Beethoven se borne à considérer que d'autres sont heureux, et non lui. Et lorsqu'il cherche à résoudre cette opposition, c'est la conscience déjà très vive de sa supériorité qui le console. Sa supériorité qui va le rendre orgueilleux. Beethoven n'est pas soutenu par une solide famille où il y a des principes, où il y a un enseignement sérieux, où il y a une espèce de sens relatif de la hiérarchie qui est sain d'avoir un père et une mère, un enfant besoin de ça, hein. Il n'y a pas de continuité aussi qui aurait pu lui enseigner une forme d'humilité saine. Jeune homme, sans passé, donc sans intuition des grandes valeurs, eh bien Beethoven se retrouve seul en face de la société. Il est seul avec son métier et ça, c'est sa première solitude. Il a trois solitudes qui vont l'envahir. Il a 22 ans quand il se fixe définitivement à Vienne. C'est une vie nouvelle qui s'ouvre devant lui. Là, le succès, l'argent, la gloire s'offrent. Puis s'y jette éperdument. Il est heureux jusqu'à un certain point. Déjà, dans son souvenir, s'estompent les tristes images de son enfance, puis son adolescence, là. Parce qu'à la pauvreté, succède une certaine aisance, puis l'admiration. Ça lui fait oublier ses origines. Son avenir lui apparaît plein de lumière tout à coup. Mais il arrive une catastrophe épouvantable. Moins de 4 ans plus tard, il commence à perdre Louis, le sens. Ce sens de Louis, d'où était né son talent. Il porte ses mains à ses oreilles, là, puis il se précipite à un piano à un moment donné, et on le voit, les sons ne lui parviennent plus qu'à travers un mur. Et le mur devient de plus en plus épais. La surdité de Beethoven n'est pas seulement le plus extraordinaire paradoxe de l'histoire. Il a 26 ans à ce moment-là. C'est un paradoxe incroyable dans l'histoire des musiciens. 26 ans, sourd. Ça explique aussi le caractère de cet homme. Beethoven brusquement se retranche de la société, de ceux dont l'admiration l'aidait à vivre. Lui qui avait trouvé sa joie dans les rencontres, les salons, les réceptions, et le voilà qui s'en écarte. Il est muré dans son silence, il préfère fuir. Il faut lire ce qui suit, c'est bouleversant. Il écrit « Je mène une vie misérable. Depuis 2 ans, j'évite presque toutes les sociétés, parce qu'il ne m'est pas possible de dire aux gens « Je suis sourd ». Dès que je suis un peu loin, je n'entends pas les sons élevés des instruments et des voix. Et d'autre part, quand on crie, cela m'est intolérable. Je veux, si toutefois c'est chose possible, braver mon destin, mais il y aura dans ma vie des moments où je serai le plus misérable des créatures de Dieu. Je serai la plus misérable des créatures de Dieu. Mais les années passent et la surdité devient complète, et au fur et à mesure, Beethoven devient plus violent. Enfermé dans le silence, il devient méfiant. Il a des réactions imprévues. Il se dispute avec ses amis les plus chers, mais il le regrette aussitôt et il s'excuse. Il est parmi les hommes comme affolé. Il est instable, il est nerveux, il se sent abandonné, ridicule, et la peur même du ridicule le rend misanthrope. Il ne trouve la paix nulle part, et brusquement il quitte son appartement, il déménage, il se querelle avec son propriétaire. Vous savez qu'en 35 ans, Beethoven va changer 30 fois d'appartement. À 32 ans, en 1802, il jette un grand cri de détresse qui porte le nom de « Testament d'Heiligenstadt » et qui est vraiment le testament d'un homme qui quitte le monde. C'est terrible à lire. « Oh, vous qui pensez que je suis un être haineux, obstiné, misanthrope, ou qui me faites passer pour tel, combien vous êtes injuste. Vous ignorez la raison secrète de ce qui vous paraît ainsi. Dès l'enfance, mon cœur, mon esprit inclinait à ce sentiment délicat, la bienveillance. J'étais toujours disposé à accomplir de grandes actions. Mais n'oubliez pas que depuis bientôt 6 ans, je suis atteint d'un mal pernicieux, que l'incapacité des médecins est venue aggraver encore, déçu d'année en année dans l'espoir que mon état s'améliore, forcé enfin d'envisager l'éventualité d'une infirmité durable, dont la guérison exigerait des années, en admettant qu'elle fût possible, doué d'un tempérament ardent et actif, porté aux distractions qu'offre la société, je me suis vu contraint de bonne heure à m'isoler, à passer ma vie loin du monde, solitaire. Ah, comment avouer la faiblesse d'un sens qui, chez moi, devrait être infiniment plus développé que chez les autres, d'un sens que j'ai possédé autrefois dans une perfection telle que bien peu de musiciens l'ont jamais connu. Non, je ne suis pas, je ne le puis pas. Aussi pardonnez-moi, si comme vous le voyez, je me retire aujourd'hui du monde. Et c'est là sa seconde solitude. Il semble que Beethoven est toujours confondu dans une même aspiration vers le bonheur, le goût qu'il a de se mêler à l'aristocratie, puis l'aspiration qui le porte à l'amour. C'est toujours pour quelques jeunes filles nobles qu'il brûle. C'est toujours l'une d'elles qu'il espère épouser. Il rêve de ne plus se sentir dépaysé dans ce milieu qu'il admire, puis dont la fréquentation, évidemment, ça le flatte, mais hélas, si Ludwig van Beethoven était un excellent musicien, rien ne le préparait à devenir un aristocrate. De toute façon, son aspect physique et ses manières plutôt grossières ne pouvaient le soutenir dans ses ambitions. On l'a dépeint comme suit, c'est pas drôle, un jeune homme petit, noirot, d'aspect revêche, insignifiant, avec une vilaine figure rouge marquée par la petite vérole. Il s'exprime souvent en dialecte et de façon vulgaire, il parle en joual, dirait-on aujourd'hui. Ses gestes et son maintien sont frustes, mais quand même l'aristocratie de Vienne, passionnée de musique, l'accueille à bras ouverts. Il est donc accepté à bras ouverts par l'aristocratie de Vienne. Le prince Lichnowsky le reçoit chez lui. Il lui accorde même une pension de 600 florins. Il y a le fameux comte de Braun, quel drôle de nom Braun, le comte de Braun, qui lui fait présent d'un cheval de selle, c'était tout un cadeau. Il a 39 ans lorsqu'en 1809, la place de maître de chapelle du roi de Westphalie, c'était Jérôme Napoléon, qui lui est offerte. On voit l'archiduc Rodolphe, le prince de Lobkowitz et puis le comte de Kinski, faire dresser un acte imaginé par lequel tous les trois ils vont lui assurer une rente annuelle de 4000 florins, à la seule condition pour lui de demeurer en Autriche. Et ça le blesse. C'est comme une douleur qu'il ressent de se sentir un étranger. Étrange, hein? Étrange. Et au sein de cette société raffinée, il éprouve violemment le contraste de sa grossièreté. Il se voit grossier. Cette société de Vienne est trop raffinée pour lui. Il réagit par l'orgueil. Il gonfle démesurément sa personnalité. Il s'applique avec cruauté à exagérer ses propres travers, à les imposer au nom de son talent. Et c'est ainsi qu'au cours d'une soirée chez le comte de Braun, où il se trouvait réuni, il y avait toute l'élite de la haute société de Vienne, là, Beethoven devait jouer une nouvelle composition à quatre mains avec un de ses élèves. Ils avaient déjà commencé lorsqu'un jeune homme placé à l'entrée du salon trouble le silence en s'adressant à une femme. Beethoven se lève, brusquement. Il s'exclame assez haut pour être entendu. « Je ne jouerai pas pour de semblables pourceaux. » Imaginez, c'était une injure épouvantable. De même, chez une duchesse, il voit qu'on ne l'a pas installée, imaginez, à la place d'honneur avec les membres de la plus haute noblesse. Et puis là, il laisse échapper des grossièretés, puis il sort. Et c'est ainsi que se développe peu à peu en lui un orgueil démesuré. Il souffre si vivement de son apparence, une certaine laideur peut-être, puis de la grossièreté de ses manières, que, forcé de les concilier avec son talent, il ne peut le faire que dans le recueillement de l'humilité ou l'emportement de l'orgueil. Son caractère emporté choisit à sa place l'emportement de l'orgueil. L'emportement de l'orgueil. Il ne sait pas être simple et humble. Une fois encore, il se retranche plutôt du monde. Puis à la solitude de sa naissance, n'est-ce pas? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la solitude du silence à cause de sa surdité, mais vient s'ajouter l'orgueil, cette solitude sociale. C'est donc sa troisième solitude, l'orgueil. Il n'accepte ni ses origines humbles, puis saintes, ni le terrible silence de sa surdité, puis ni l'humilité. L'humilité qui fait d'un homme un homme vrai, hein? S'il avait été sincère, il aurait cherché une compagne, une femme, une épouse, non dans l'aristocratie, mais dans le monde qui était le sien, celui de la musique, et comme Jean-Sébastien Bach, mais il aurait évidemment trouvé un certain bonheur, conjugal et familial. Avec une humilité sincère, il n'aurait pas caché au monde sa surdité. Il n'en aurait pas été aussi profondément blessé dans sa vanité d'homme. Mais c'est pas facile, la surdité. Il n'aurait pas souffert, lui, l'artiste, de n'être pas en plus noble parmi les nobles. D'ailleurs, quand on y pense, qu'est-ce que c'est que la noblesse? Être noble, qu'est-ce que ça veut dire? Rien, en fait, rien. C'est pas ça la vraie noblesse. C'est la noblesse du cœur qui compte, la noblesse des humbles. Beethoven se mure donc dans sa triple solitude. Ses amours, inspirés de rêves de grandeur, le contraignent au célibat. Il va s'y enfermer avec une espèce de délectation. On appelait ça autrefois la délectation morose. Puis il y a de l'amertume chez lui. Et c'est triste, et c'est probablement tout le drame de cet homme prodigieux, d'être né à cette époque d'ivresse, de s'y être plié. Au fond, Beethoven était bon. C'était un homme, au fond, vertueux et pur, mais s'y est corrompu. Au lieu de respecter l'ordre naturel qui faisait de lui le premier parmi les hommes de son temps, faisant métier de musique, il a tout confondu. Son malheur d'homme est né de là. Il y a des historiens de la musique qui ont essayé de faire une interprétation romantique de Beethoven puis qui expliquent son génie par sa souffrance. Mais cette souffrance, est-ce que c'est pas Beethoven qui, victime de son époque, l'a étendue puis amplifiée? C'est pas seulement sa souffrance qui fait jaillir son œuvre. C'est aussi malgré elle, car cette souffrance pouvait par grâce lui apporter, oui, la paix de l'âme, bien oui, dans le mystère chrétien des choses. Sa musique aurait reçu cette paix. Elle aurait, comme celle de Bach, libéré l'âme au lieu de l'envoûter de sa nostalgie passionnelle. S'il avait été humble devant Dieu, s'il avait accepté sa condition en étant sûr de l'amour de Dieu, en répondant à cet amour par la prière et l'adoration profonde. C'est une leçon pour nous tous durant cette semaine sainte. Beethoven, c'est sûr, n'était pas très beau, et le masque qui a été pris de son visage est devenu si populaire que nous sommes habitués, mais nous y attachons moins d'importance à cette laideur relative. On l'a décrit comme suit, Voici ce qu'on disait de lui, ce front pesant, ses paupières lourdes, ce nez large et épais, la fente amère de la bouche, le menton bref et impérieux, l'expression de douloureuse méditation qui s'en dégage, ont pris déjà la valeur d'un masque éternel. C'est bien là l'image tourmentée et puissante du génie romantique, et dont la violence même témoigne. Et on ajoute que le masque vient à s'animer, et le visage, alors, d'une mobilité extraordinaire, est tout entier dominé par le regard. Que les paupières se soulèvent, et l'on est subjugué par ses yeux de feu, petits, enfoncés, pleins d'une vie formidable, qui brûle d'une flamme inquiète, à peine supportable quand le regard se fixe. Où se mirent, à tout moment, ses pensées, ses impressions fugaces, tour à tour gracieux, aimant, sauvage, menaçant, terrible. Le corps est petit, les épaules robustes, le col épais. Il va généralement mal vêtu. Lorsque ses cheveux en désordre sont hérissés par le vent, il a vraiment quelque chose de démoniaque. On va loin. Hein? Dans toute sa personne, sa tension constante, cette inquiétude douloureuse du sourd qu'il ressent si vivement, il lance allègrement un mot joyeux, puis aussitôt retombe dans un sombre silence. Si Beethoven est très orgueilleux, il y a aussi un autre drame chez lui, c'est l'amour. Hein? Avec l'orgueil, voilà sans doute le sentiment le plus puissant qui l'anime, l'amour. Et pendant que l'orgueil le replie sur lui-même, l'amour relâche son cœur, c'est l'amour des femmes, son cœur, ça l'ouvre à d'autres présences, mais malheureusement cet amour même est pénétré d'amour propre. On a écrit... Entre toutes les femmes de type très différent qu'il a adoré, pas une jeune fille du peuple. Il ne cherche qu'une femme aristocratique. Qui n'en veulent pas? Les jeunes filles du monde, si elles se donnaient totalement à sa musique, ne pouvaient se résoudre à songer sérieusement à partager la vie de cette espèce de force de la nature. Beethoven était plutôt indiscipliné, désordonné dans les plus petites démarches quotidiennes. Alors comment partager la vie de cet homme très pur, ravagé, vulgaire souvent, même grossier? À cette explication de son célibat s'en ajoute une autre, c'était l'instabilité sentimentale de Beethoven. Un de ses élèves a écrit « Il était sans cesse amoureux, mais ses amours étaient le plus souvent de courte durée, et ne dépassaient que rarement 6 ou 7 mois. » Pourtant, le désir du mariage était chez lui profond et sincère. Il a écrit aux situations affreuses, « Oui, situations affreuses qui semblent éteindre mon désir d'un foyer », en exclut la réalisation. Ô mon Dieu, abaisse tes regards sur le malheureux Beethoven, fais que cela finisse. Mais à aucun moment, l'idée ne lui vient d'abaisser lui-même ses regards sur une femme, une compagne que ses manières ne rebuteraient pas, une femme simple. Mais tout de même, il semble que Beethoven ait été strict sur l'idée qu'il se faisait de l'amour, et on rapporte que lorsque la conversation venait à prendre une tournure un peu libre, là, eh bien, il devenait muet, il gardait le silence, et on dit qu'il ne pardonnait pas à Mozart d'avoir pu trouver une inspiration dans la légende de Don Juan. Et oui, il était quand même un homme honnête, et bon malgré tout, malgré ses grossièretés. De Beethoven, ce grand compositeur, qui a eu une vie passablement malheureuse, et pourtant, son ami intime Schindler, assure qu'il a traversé la vie avec une pudeur virginale, sans avoir jamais eu à se reprocher une seule faiblesse. Il ne se marie pas, Beethoven. Il aime toujours, il n'en demeure que les noms de quelques très belles femmes. Mais il aime à vide. Et l'on voit comment peu à peu il est parvenu à recréer, au creux de sa solitude, le monde de l'amour. Il l'a retrouvé, mais désincarné. Ce sont des fantômes auxquels il prête la réalité et qu'il étreint dans ses bras. C'est peut-être ni à Amélie Sibald, ni à Thérèse de Brunswick, ni à Juliette Guicciardi, comme on l'a supposé tour à tour, que s'adresse sa fameuse Lettre à l'immortel aimé. C'est une des plus belles lettres d'amour qui soit dans l'histoire de la littérature. Lettre à l'immortel aimé. J'ai le goût de vous la lire. Mon ange, c'est une lettre qu'il n'a jamais remise à personne. Il l'a écrite comme ça, comme un rêve, dans sa solitude. Mon ange, mon tout, mon moi. Pourquoi ce chagrin profond quand la nécessité parle? Notre amour peut-il vivre d'autre chose que de sacrifice et de renoncement? Peux-tu faire que tu sois tout à moi et que je sois tout à toi? En lisant ça, je me dis, mais si Beethoven avait découvert Dieu, Jésus vivant, il aurait pu écrire une espèce de lettre mystique, avec à peu près le même vocabulaire. Car il n'y a rien de charnel dans cette lettre. Ça demeure très pur, comme disait Schindler tout à l'heure. L'amour, dit Beethoven, écrit Beethoven, exige et a bon droit. C'est ce que je ressens pour toi, toi pour moi. Mais tu oublies trop facilement qu'il me faut vivre pour moi et pour toi. Si nous étions tout à fait unis, tu n'éprouverais pas, plus que moi, cette douleur. Tu souffres. Ah, là où je suis, tu es avec moi et je te parle. Oh, fais que je puisse vivre avec toi. Quelle existence sans toi, poursuivi ça et là par la bonté des hommes, que je ne cherche pas à mériter, mais plus que je ne la mérite. L'humilité de l'homme devant l'homme, elle me fait mal. Si je me considère moi-même à l'égard de l'univers, que suis-je? Qu'est celui que l'on dit très grand? Et c'est là pourtant que l'homme participe du divin. Vous voyez les beaux sentiments d'humilité qu'il a, puis pourtant il a agi comme un orgueilleux. C'est curieux. Hein? Il ajoute encore au lit, mes pensées se pressent déjà vers toi, parfois joyeuses, puis de nouveau tristes, inquiètes de savoir si le destin nous exaucera. Je ne peux vivre qu'entièrement avec toi, ou pas du tout. Oui, j'ai résolu d'errer au loin, jusqu'au jour où je pourrai voler dans tes bras, me dire chez moi, auprès de toi, et avec toi élever mon âme jusqu'au royaume des esprits. Hélas, oui, il le faut. Tu prendras courage, sachant ma fidélité envers toi. Jamais une autre ne pourra posséder mon cœur, jamais, jamais. Oh, mon Dieu, pourquoi faut-il s'éloigner de ce qu'on aime ainsi? Mais ma vie à Vienne, telle qu'elle est en ce moment, est une vie de chagrin. Tout amour fait de moi le plus heureux des hommes et le plus malheureux à la fois. À mon âge, j'aurais besoin de continuité, de calme dans ma vie. Est-ce possible, en l'état de nos rapports? Il termine en disant « Sois calme ». Ce n'est qu'en envisageant avec calme notre existence que nous pourrons atteindre notre but, vivre ensemble. On soit calme, aime-moi. Aujourd'hui, hier, quelle ardente aspiration, que de larmes vers toi. Toi, toi, ma vie, mon tout. Adieu. Oh, continue de m'aimer. Ne méconnais pas le cœur très fidèle de ton cher Ludwig. Éternellement à toi, éternellement à toi, éternellement à nous. Que c'est curieux. Hein? C'est bien difficile de ne pas être frappé là, par le dépouillement total de ce cri d'amour, non seulement pur, il n'y a pas de sensualité là-dedans. Il n'y a même pas un baiser. C'est abstrait au point que la femme aimée, il semble parfaitement immatériel. Mais quel drame, comme je vous disais tout à l'heure, que celui de Beethoven, cet homme qui semble avoir eu le pressentiment inconscient de cette vie intime d'amour de l'âme pour Dieu qu'est la vie mystique, mais n'en a pas fait grand-chose. Il cherche plutôt au-dedans de lui une créature, alors qu'il aurait pu trouver vraiment au-dedans de lui, vivant, le Créateur qui lui avait donné tous ses dons. Il ne sait pas que Dieu l'habite, que la Trinité est en lui, on dirait que ça ne lui a pas été enseigné, bien que catholique. Parmi tous ses contemporains, Beethoven a peut-être été celui que le romantisme menaçait le plus vivement. Aussi, ses idées politiques et métaphysiques Votre esprit du même irréalisme sentimental, c'est un rêveur. Schindler, son ami, il l'a connu dans l'intimité, il l'affirme, cet amoureux des baronnes et des comtesses qu'était Beethoven, aimait, dit Schindler, aimait les principes républicains. Il était partisan de la liberté illimitée. Il voulait que tout le monde participe au gouvernement de l'État. Il voulait pour la France le suffrage universel. Il espérait que Bonaparte l'établirait et jetterait ainsi les bases du bonheur du genre humain. Mais on ne peut pas affirmer que la République française d'alors ait réalisé la dimension de ses rêves. Hein. Schindler ajoute que la République idéale qu'il aurait voulu, c'est celle de Platon. Vous connaissez ça probablement. Puis un commentateur estime que la petite principauté catholique, là où il vivait à Bonn, lui a plutôt communiqué l'idée d'un despotisme éclairé, paternel et libéral, où se marieraient les conceptions politiques de Platon. Bon, quoi qu'il en soit, on peut passer à autre chose, mais en tous les cas, l'inspiration, dans les deux cas, c'est généreux, c'est sentimental. Beethoven a des belles choses en lui. Il imagine tous les hommes ouverts et bons, émus d'appartenir à la grande fraternité humaine, idéalement libres et vertueux. Alors, qu'importait pour lui alors que l'État dépende d'un monarque ou du suffrage universel, puisque la perfection des hommes aboutit toujours à des rapports où la bonté puis la sagesse ordonne même bonheur à toute la société. Il rêve. Il rêve avec son cœur. La sensibilité de Beethoven est donc incontestablement pénétrée de romantisme. Qu'on se rappelle le début du testament d'Heiligenstadt qu'il a écrit. « Homme qui me regardait comme haineux, fou, misanthrope, combien vous êtes injuste pour moi. » Mon cœur était enclin depuis l'enfance au doux sentiment de la bonté. Puis là, il s'adresse à Dieu en l'appelant divinité. Il dit, « Divinité, tu pénètres d'en haut le fond de mon cœur. Tu le connais. Tu sais que l'amour des hommes et le désir de faire le bien y habitent. » Et c'est clair, cette conception politique correspond chez Beethoven à une forme de misanthropie qui grandit avec les années. Il va même jusqu'à dire à un moment donné « J'aime mieux un arbre qu'un homme ». Alors comme Jean-Jacques Rousseau, il préfère décidément la compagnie de la nature, des forêts puis des rochers. J'entends des gens qui me disent ça. « Je ne vais jamais à l'église, je me promène dans les bois, chez moi, dans les montagnes. » Dans la campagne, dans la forêt, au gré de ses promenades quotidiennes, il croit enfin sortir de lui-même. Ce n'est pas la nature-création qu'il aime. Non, c'est seulement la fuite, le refuge, l'occasion enfin d'une espèce de communion rêveuse. Sa communion, là encore, ce n'est qu'une parodie, en somme, dans ce cercle fermé de sa solitude qui s'est construite. De même, enfin, c'est la même chose pour sa communion avec Dieu. Ce n'est pas dans l'hostie catholique qu'il connaît. Ce n'est pas dans l'hostie et dans la soumission de sa volonté à celle de Dieu qu'il la cherche, la communion, mais dans les élans sentimentaux de son cœur et de sa conscience. C'est encore en lui-même. C'est dans l'illusion qu'au cours de cette ultime étape, il invente le monde de son Créateur. L'amour de Dieu ne le rejoint pas. Personne n'a jamais nié, sauf Haydn, que Beethoven ait adoré un Dieu. Pour les uns, c'est un simple déiste, et pour les autres, un franc-maçon. Haydn le dit athée. C'est faux. Un second considère sa messe en ré comme une messe de libre examen. Et Vincent d'Indy, qui s'est beaucoup penché sur l'aspect religieux de Beethoven, a écrit un très beau livre. Il en garantit l'orthodoxie de sa messe en ré. De ces contradictions même, il semble que l'on peut dire que la pensée de Beethoven a été assez floue. Il a grandi au sein d'une société catholique, mais il a subi dès l'adolescence, comme beaucoup de catholiques aujourd'hui, l'influence philosophique de ce qu'on appelle l'Aufschlarung, c'est-à-dire la pensée rationaliste du siècle des Lumières. Il semble bien que le Dieu qu'il reconnaît soit plus proche d'une espèce de rationalisme sentimental assez vague. que de la réalité catholique qui est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous habite, un Dieu qui nous dévore de joie, un Dieu qui nous embaume de sa présence. Notre Dieu est un Dieu qui nous soulève de joie. Il ne l'a pas connu. Dans ces notes, on retrouve des allusions non pas au Dieu vivant, non pas au Dieu, comme dit Pascal, le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, non pas au Christ, qu'il n'a pas connu, on dirait, mais au Dieu des philosophes et des savants, est influencé par une conception plutôt panthéiste de la nature, et ce n'est pas la grâce qu'il recherche. Il recherche la joie. Il écrit « Ô quand, divinité, ta voix pénétrera-t-elle en moi, dans le temple de la nature et des hommes ?» Il écrit encore « Dieu des forêts, Dieu tout-puissant, je suis béni, je suis heureux dans ces bois où chaque arbre me fait entendre ta voix. » Il y a une anecdote assez terrible. Il aurait dit à Blöcklinger en 1819, c'est terrible, « Après tout, le Christ n'est pas autre chose qu'un juif crucifié. » Mais ça peut être sujet à caution. Il semble bien, par contre, qu'il refuse de composer une victoire de la croix. Et ça semble authentique. Il a dit à ce sujet, « Je n'y saurais trouver une source d'inspiration. » Quel malheur! C'est là qu'on voit, nous sommes entourés de gens qui ne voient pas la victoire de la croix cette semaine. Nous sommes entourés de tous ces gens-là. Peut-être ne la voyons-nous pas comme il faut nous-mêmes. Nous pouvons sympathiser avec Beethoven. Parce que Beethoven, pourtant, portait sa croix. Il n'a pas cessé de rechercher dans sa douleur même une victoire. Mais ne le fait pas vraiment en chrétien dans l'humilité. Son attitude rappelle tout ensemble, on pourrait dire, l'orgueil des stoïciens. Il y a aussi une espèce d'imprécation des romantiques. C'est avec ses seules forces qu'il veut vaincre, c'est ça son malheur. Il oublie que la nature humaine est une nature déchue par le péché, et que seul le sang du Christ peut la réparer. Le sang, l'âme du Christ, comme je vous dis souvent, le sang c'est l'âme du Christ selon la conception juive du sang. Et si nous ne plongeons pas dans l'âme du Christ, si nous ne recevons pas l'Eucharistie en sachant que nous recevons l'âme du Christ, notre cœur ne sera pas réparé. Il n'est pas d'homme qui ne cherche instinctivement à faire son salut, c'est sûr, il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui éprouve le sentiment de l'inachevé, de l'incomplétude. Il n'y en a pas d'homme qui, sous le nom du bonheur, ne cherche à tâtons au fond une existence absolue et qui sauverait son âme. Mais cette fois, ce n'est pas en lui-même que Beethoven peut trouver cette paix. Alors, il la cherche dans la musique. C'est là qu'il va tenter, impuissant, de faire son salut. Il faut que j'insiste sur son enfance. Il a eu une enfance bien, bien, bien difficile. Et nous verrons tout à l'heure quelle était cette enfance et comment il a achevé sa vie. Vous savez que c'est de force et à coup de règle que dès l'âge de 3 ans, la musique a été enseignée à Beethoven. Son père, paresseux mais imaginatif, espérait faire de lui un enfant prodige, un second Mozart. Et Ludwig sait lire ses notes avant que de lire ses lettres. À 7 ans, il joue du piano. Il parvient à manier un petit violon. Cependant que le père Willibald, dont je vous ai parlé, lui apprend à jouer de l'orgue, ce franciscain. À 10 ans, il improvise au piano. À 11 ans, il est nommé suppléant de l'organiste de cour. Puis à 13 ans, il fait vivre sa famille, je vous l'ai dit, en donnant des leçons. Ce dont il a horreur, et ainsi la musique est née en lui au moment où sa conscience s'éveillait. En cela, la musique lui est prodigieusement habituelle. C'est dans la contrainte qu'il a fait cette acquisition. Et c'est malgré lui. Son père était sévère. Et cependant, très vite, il s'est pris d'une passion étrange et profonde et puissante pour cette musique, qui lui apparaît comme le monde de la douceur et de la consolation, aussi réel, puisqu'aussi habituel que l'autre, mais plus accueillant. Il semble que sa formation musicale a manqué, comme d'ailleurs la formation de son esprit, de discipline, puis de cohérence. Les règles de la technique lui ont d'abord été enseignées à Vienne, par Haydn, mais c'était pas très très bon. La nature échevelée de Beethoven, frémissante, enthousiaste, va souffrir en suivant des leçons d'harmonie de quelqu'un d'autre qui était plus strict, de contrepoint. Puis en vérité, Beethoven n'y verra jamais qu'un système superposé à la musique, au contraire de Bach, qui y retrouvait, lui, l'ordre interne, puis l'explication même de la beauté. Et c'est donc dans la fougue de l'improvisation que Beethoven, à cette époque, se retrouve lui-même et se montre tout entier. Et depuis l'imitation de Mozart lors de ses débuts, jusqu'à l'épanouissement de sa personnalité avec la 3e symphonie, le durcissement de sa manière après la 9e, c'est toujours le même abandon, le même asservissement de l'inspiration à la sensibilité. C'est en se soumettant à elle, en submergeant en elle son esprit, qu'il parvient à la douer là d'une réalité autonome, à en faire la substance comme vivante là, des fantômes de sa solitude. Pour apprécier à quel point la substance même de la musique semblait à Beethoven douée de réalité, il faut pénétrer la profondeur du drame qu'il a vécu lorsqu'il est devenu sourd. Je vous en ai parlé. Il écrit « Quelle humiliation lorsque quelqu'un près de moi entendait au loin une flûte et que moi je n'entendais rien. » Ou encore entendait un pâtre chanter et moi toujours rien. De cette expérience, de telles expériences, me jetèrent tout près du désespoir. Peu s'en fallut que je misse moi-même fin à ma vie. C'est l'art, lui seul, qui m'a retenu. Il me semblait impossible de quitter le monde avant d'avoir produit tout ce que je me sentais capable de produire. Ceux qui l'entourent souffrent comme lui. Il a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Cependant que son caractère devient plus misanthrope, sa faculté de créer de la musique, puis la nature même de son inspiration demeure intacte. Mais l'essence de la musique ne laisse pas de s'en trouver pour lui prodigieusement modifié. Le son physique, perceptible à l'oreille, le son, cette ultime attache avec la matière du plus immatériel des arts, s'est éternellement tu. C'est le silence. Il ne restait plus à Beethoven que la mimique secrète et comme voilée de la musique intérieure. C'est terrible, hein? La source même de l'acte de créer, la création lui est ravie. Et c'est sans doute là le sommet du drame de Beethoven. Sa pointe extrême, la plus émouvante, c'est cette musique qui a perdu toute existence sensible et qu'il va faire la substance absolue de son univers, la chair et le sang des fantômes de sa solitude, la matière ultime de toute réalité. Et ce sont toutes les tendresses de l'amour, tout l'héroïsme des hommes, tous les échos de la nature, toute la joie réclamée à Dieu qu'il va animer dans l'effort prodigieux, surhumain de son œuvre. Alors, c'est la nostalgie d'un amant malheureux qui forme le thème principal de sa résurrection de l'amour. Ce n'est pas dans cette mélancolie que Beethoven cherche son salut. Elle n'est qu'une étape dans le chemin de ses jouissances et c'est la joie qu'il aspire. C'est à la joie qu'il aspire. La joie. Il n'a cessé de l'appeler toute sa vie, du fond de sa douleur, et c'est ici-bas qu'il entend la trouver, par ses seules forces, comme je vous ai dit. Et pendant des années, il va songer à la grande composition qui va lui permettre de réaliser son projet. Enfin, c'est au terme de la 9e symphonie qu'il va placer cet hymne à la joie, né de sa solitude, de son effort de titan, comme un voleur d'éternité. De la mélodie confiante des basses, au rythme toujours plus résolu, s'élance le chant. Il y a une voix d'homme, vous vous souvenez, seul et nu, qui s'élance là dans ce chant à la fin de la 9e symphonie. C'est soutenu par, on pourrait dire, le rêve de l'orchestre. Il y a un appel. Et au fur et à mesure que son chant se précipite, c'est le cœur doux et peu à peu puissant et enthousiaste qui l'entoure et l'enrichit. Là. Que c'est beau, hein, cette fin de la 9e. Au sommet de son épanchement, c'est un long cri de confiance qui éclate, se prolonge et cesse brusquement dans le silence. Puis reprend toujours la mélodie. Ah, c'est si beau, hein? C'est en Dieu. Et par la musique que Jean-Sébastien Bach avait fait son salut, a fait son salut. C'est dans la seule musique que Ludwig van Beethoven cherche le sien. De l'art qui n'est en fait qu'un moyen, il a fait une fin. Et la grandeur douloureuse de sa musique demeure quand même très émouvante. C'est peut-être qu'elle conserve, dans le souffle passionné qui l'anime, une prière inconsciente, la prière inconsciente de Beethoven. Beethoven cherche, impuissant, sa rédemption, mais il ignore le Rédempteur, Jésus. Dieu est son âme. Beethoven est mort à Vienne en 1827, il y a 170 ans, à 57 ans. Il a même quand même déclaré, c'est Bettina Brentano, dans une lettre à Goethe, qui écrit que Beethoven lui a dit « Je sais bien que Dieu m'est plus proche dans mon art que des autres, et j'avance sans peur avec lui près de moi. Je l'ai toujours reconnu et compris. Je n'ai pas non plus d'anxiété pour ma musique qui ne peut avoir un méchant destin. » Vous savez qu'il a laissé des quatuors à cordes, on en a entendu, des sonates pour piano, on en a entendu un petit peu. Oh, la passionnata, la pathétique, puis au clair de lune, les concertos pour piano, 9 symphonies, pensez à l'héroïque, la pastorale, puis la 9e avec les chœurs. Il a laissé tellement de belles choses que je suis sûr que Dieu l'a accueilli contre son cœur. Prions pour tous ceux qui nous entourent, qui n'ont pas la foi que nous avons. Souvent, qui sait, Dieu les aime peut-être beaucoup plus que nous, car il comprend. Dieu comprend les cœurs, et Dieu nous aime tous.